RMC After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.
Ravi de vous retrouver dans ce podcast After Galaxy. Meilleurs vœux pour 2024. Plein de bonheur, de réussite, la santé surtout. Une année qui va bien débuter niveau foot. Puisque le 13 janvier et jusqu'au 11 février, la Côte d'Ivoire organise la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce premier Galaxy 2024 va donc être rythmé par cette CAN et Akwaba, son rythme mené par Magic System. Pour nous accompagner, nous guider dans cette CAN ivoirienne, ils vont animer nos soirées sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'After Foot pendant cette Coupe d'Afrique. Hamza Ramani, salut Hamza.
Bonjour messieurs.
Petit pas de danse et tout.
On est là, ça y est, c'est parti la Coupe d'Afrique.
Ouais, merci d'être avec nous Hamza.
Avec grand plaisir, merci pour l'invitation.
Bah écoute, merci pour la suggestion puisque ce podcast est une idée originale d'Hamza Ramani bien entendu. Walid Al-Cherchour également est avec nous, salut Walid.
Salut Nico, salut à tous.
Merci d'être là.
Merci à toi.
Merci de n'avoir rien proposé.
Merci. Merci à moi-même.
Et Oussem Loussaïef également est avec nous. Salut Ous.
Salut Nico, bonjour tout le monde.
L'homme qui animera chaque soir de CAN une émission dédiée à la Coupe d'Afrique sur la chaîne YouTube de l'After Foot.
C'est exactement ça. Génération Africa 2024, 20h-21h, les soirs de match, avec beaucoup de monde que vous connaissez déjà, notamment Walid Al-Cherchour, Ricardo Fati, Elton Mokolo et plein d'autres surprises. On reviendra sur toute l'actu de la CAN. Vous ne louperez rien du tout.
Vous êtes chaud pour cette CAN déjà ou pas les gars?
Très très chaud.
Vraiment?
De fou.
Très très chaud. Ça fait quand même longtemps que, notamment après cette Coupe du Monde où le Maroc a fait demi-finale, qu'on attend cette Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il y a des équipes revanchardes, il y a des équipes qui doivent prouver, il y a des équipes qui ont leur titre à jouer. Et donc il y a une vraie homogénéité, de la qualité. En plus, les premiers échos en Côte d'Ivoire sont très très positifs sur l'accueil de toutes les sélections. Donc vivement que ça commence et vivement samedi.
Vivement Hamza?
Ah, totalement, totalement. Là, c'est le sprint final. On a attendu ça pendant de longues semaines, sincèrement.
Et encore, t'as du bol, c'est tous les deux ans la CAN. Hein. Nous l'aurons, on attend tous les quatre ans les Portugais.
Non, sincèrement, on va en parler. C'est une édition extrêmement, extrêmement excitante et on espère déjà qu'en termes d'organisation, mais comme tu le dis, Walid, au vu des premières images et des premières informations qui nous remontent depuis la Côte d'Ivoire, ça s'annonce exceptionnel.
Je sais que t'es chaud aussi, parce que t'avais des semaines tranquilles. Donc du coup, ça apporte.
Exactement. J'ai beaucoup de temps dans ma vie, donc les matchs, je les attends avec plaisir. Et puis moi, je suis pas loin de penser la même chose qu'Amin Harit. En tout cas, c'est ce qu'il avait dit juste avant de rejoindre la sélection du Maroc. Il avait dit que c'était pour lui, ça lui semble être en tout cas une des CAN les plus relevées de ces dernières années. Je suis pas loin de penser la même chose que lui.
La Côte d'Ivoire qui va donc recevoir cette CAN 2023, une compétition dont le tenant du titre est le Sénégal. Les Lions de la Teranga qui avaient obtenu le premier sacre de leur histoire au Cameroun il y a deux ans, à l'issue d'une séance de tirs au but en finale face à l'Égypte.
Le Sénégal tout entier, Sadio Mané face à Gabaski. Et c'est fait ! C'est fait ! Le Sénégal écrit l'histoire ! Les Lions de la Teranga rugissent à la face de l'Afrique, à la face du monde ! Les Lions de la Teranga remportent la première Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire. Aliou Cissé a effacé la malédiction, la finale perdue de 2002 où il avait manqué son tir au but, la finale perdue de 2019. L'Égypte est tombée, l'Égypte est lente en larmes, le Sénégal est champion d'Afrique.
Le sacre du Sénégal, hein, commenté par Bein Sport. Le Sénégal qui était l'un des favoris lors de la dernière CAN, qui avait battu la nation la plus titrée d'Afrique en finale. Alors, en préparant ce podcast, Hamza, tu disais que la moitié des équipes engagées dans cette CAN 2023 étaient au minimum outsider.
Ouais, clairement. Je pense qu'il y a une dizaine, peut-être même douzaine, je ne les ai pas toutes comptées exactement, mais d'équipes qui peuvent prétendre au sacre
final. Une équipe
final,
sur deux, quasiment.
Ou en fait, exactement. Ou en fait, à la fin, si jamais telle équipe remporte la compétition, je me dis, ah, c'est pas vraiment une surprise. Et pour plein de raisons différentes, certaines sont footballistiques, certaines ne sont pas footballistiques parce qu'un pays comme le Nigeria peut sauter dès le premier tour, un pays comme le Ghana peut sauter dès le premier tour. Et pourtant, je me dis qu'aujourd'hui, il est impossible d'exclure ces prétendants-là. On va ajouter les surprises, le Mali, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso qui est sur trois demi-finales sur ces 10 dernières années. Franchement, je pense qu'on a une douzaine d'équipes qui peuvent rêver de remporter cette compétition.
Tu dis oui de la tête,
je suis totalement d'accord avec lui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense que c'est une de celles qui a le niveau le plus relevé depuis bien longtemps. Avant, on pouvait faire deux groupes, tu vois, pour faire des chapeaux, aller une 5, 6, 7 équipes vraiment au-dessus. cette fois-ci, ça va être un peu compliqué. Tu vois, par exemple, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais la Tunisie, qui est un,
non, on en parlera
qui est une grosse nation du continent africain, et ben, cette année, j'ai peur. Tu vois.
Pour toi, Walid, je sais que cette, ce qui caractérise cette CAN 2023, c'est son homogénéité.
Oui, l'homogénéité, de toute façon, tout a été résumé. Aujourd'hui, bien évidemment, qu'on va essayer de faire voilà, les trois favoris, on va essayer de faire des petits chapeaux, mais la réalité, c'est qu'à partir du moment où la compétition va commencer, il y aura des dynamiques, la dynamique du premier tour, la dynamique des huitièmes. Il y a des équipes qui peuvent se révéler pendant une compétition, il y a des équipes qui peuvent aussi sombrer pendant une compétition. On en a vu sur les dernières éditions. L'Égypte était annoncée très très fort en 2019 à la maison. Ils se sont fait sortir par l'Afrique du Sud en huitièmes. L'Algérie était annoncée très très fort sur la dernière avec leur grosse série d'invincibilité, ils se sont fait sortir au premier tour, donc voilà, on se rappelle du Maroc aussi en 2019 face au Bénin qui était annoncé très très fort avec Hervé Renard. Donc les histoires des favoris, oui, ça nous excite un petit peu parce que la dynamique, les listes, tout ça c'est important, les qualités de coach, mais après la réalité du terrain va quand même prendre le pas. Et comme vient de le dire Hamza, il y a beaucoup beaucoup d'équipes qui sont aujourd'hui prétendant un dernier carré, et quand t'es dans le dernier carré, après, tout peut arriver.
Exactement.
Phrase un peu cliché aussi, un peu comme la tienne d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique où il y a un nivellement vers le bas finalement ? Vous diriez quoi, vous, plutôt ?
Non, pas nivellement vers le bas. Je pense pas à Hamza.
Je suis pas sûr qu'il y ait un nivellement vers le bas parce qu'aujourd'hui...
Si on pose des questions, dérange. Hein,
la majorité des sélections que l'on pourrait qualifier en tout cas de l'extérieur de grosses sélections voit le renfort de beaucoup de joueurs binationaux, de plus en plus jeunes, de plus en plus talentueux. À cela, on a l'ossature de joueurs qui évoluent en Afrique, chez certains pays qui sont toujours aussi performants, pour les pays d'Afrique du Sud notamment, avec notamment les Mamelodi Sundowns.
Exactement.
Pour les pays pour l'Égypte en l'occurrence,
avec
clubs comme El Ahly, Zamalek, les Pyramides. Donc j'ai l'impression plutôt, moi je dirais à l'inverse, qu'on a peut-être un nivellement vers le haut des équipes moyennes et des équipes de petit niveau, petit calibre entre guillemets, avec tout le respect que l'on a pour ce type d'équipe évidemment. Mais
à la Tunisie notamment.
La Tunisie c'est un cas à part parce que je pense qu'Hamza il les considère comme les grosses nations, il les considère dans les grosses nations africaines, ce qui n'est pas faux parce qu'ils sont toujours au rendez-vous. Mais par contre c'est un des pays qui travaille le moins bien dans ces grosses nations africaines.
Il y en a des crises avec DS là-bas pour le coup.
Franchement,
économique, politique.
T'arrives quand même sur une compétition où ton président de fédé il est derrière les barreaux, où ton sélectionneur et son staff, on sait tous, qui seront plus là après la compétition. Le travail en interne est mal fait avec le ministère du sport. Donc oui, ils ont peut-être des arguments pour dire qu'ils bossent mal, mais c'est
après, sur les dernières compétitions, sur le début des compétitions, on n'a jamais vu d'énormes scores. Hein. Souvent, on avait vu les Comores battre le Ghana l'année dernière. On a vu les Comores aussi, je crois, en huitième contre le Cameroun dans des situations rocambolesques.
Il n'y avait pas de gardien. Voilà, sans gardien, ils mettent un joueur de champ dans les buts.
À cause du Covid.
Et malheureusement, il y a le Covid. Et puis malheureusement, il y a un carton rouge après 5 minutes de jeu à peine. Finalement, même en infériorité numérique, ils parviennent à monopoliser le ballon. Franchement, c'est un super match.
Ils avaient été plutôt fiables et compétitifs. Donc il y a aussi le fait que ces équipes-là, les équipes qui doivent gagner, sont programmées pour gagner. Et les rentrées en compétition sont peut-être un peu, se font un petit peu difficilement.
Et puis, il y a un élément très important par rapport aux petits pays, entre guillemets, aux pays comme la Gambie, première participation aussi il y a 2 ans et quart de finaliste, c'est qu'aujourd'hui, avec une Coupe d'Afrique à 24, les 4 meilleurs 3e peuvent se qualifier. Donc concrètement, une victoire peut te qualifier au tour suivant et en 8e de finale. Donc jusqu'à la dernière journée, on aura de l'enjeu à chaque match.
On va s'arrêter un instant sur le tenant du titre, le Sénégal, Aliou Cissé, qui a concédé une interview à Télé Futur Média il y a quelques jours. Le sélectionneur sénégalais ressent-il la pression du peuple sénégalais ?
Je dirais pas de pression, mais je dirais plutôt motivation. Voilà, motivation à conserver notre titre, même si nous savons que ça risque d'être une bataille vraiment farouche en Côte d'Ivoire. Mais comme je le dis et je le répète, le Sénégal est assez argumenté. Le Sénégal a les arguments à faire valoir. Le Sénégal a assez de vécu, assez d'expérience aujourd'hui. Donc nous y allons avec de la conscience et surtout beaucoup de confiance aussi.
Alors, on était dans la thématique des favoris. Est-ce que parce qu'il doit défendre son titre, le Sénégal a plus de pression que les autres nations, Walid ?
Pression, je ne sais pas. Ils ont fait le plus dur. Ils ont été gagner cette Coupe d'Afrique des Nations qui leur échappait dans leur histoire. Et ça, c'était quand même une anomalie quand on voit les générations qu'on avait eues du Sénégal.
Et oui.
Faire un back-to-back, c'est quand même très, très dur. Moi, j'en voudrais pas au Sénégal de ne pas remporter cette compétition. On parle d'une équipe qui a fait 2 fois finale en 2000, sur les deux dernières compétitions.
Qui a fait un beau parcours en Coupe du Monde en plus.
Bon parcours en compétition, qui est aussi en reconstruction parce qu'il y a un peu des anciens qui vont sûrement arrêter sur les deux prochaines Coupes d'Afrique des Nations. Il y a beaucoup de blessés. Alors après, attention, hein, tout dépend de la CAN que tu me fais. Hein. Si tu te fais éliminer au premier tour, zéro but. Et tu perds en demi-finale au tir au but contre l'Égypte ou contre la Côte d'Ivoire, c'est pas la même histoire que tu racontes à tes supporters. Mais maintenant, d'avoir une pression... Je suis pas sûr qu'ils ont une pression monumentale sur un possible back-to-back.
D'autant plus que je rappelle juste le groupe du Sénégal, hein, ils sont avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Hein.
D'autant le Sénégal a écrasé le continent africain sur ces deux dernières années, puisque le Sénégal est le détenteur de la Coupe d'Afrique des Nations, du Championnat d'Afrique des Nations, donc la Coupe d'Afrique des joueurs locaux, la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans et même la CAN de beach soccer. Le seul titre qui leur manque, c'est la CAN des moins de 23 ans qui s'est disputée au Maroc l'année dernière, donc en 2023, oui, avec les années pair-impair.
Ils ont fait un 2 contre 2 dans un couloir.
Ils ont tout récupéré.
Ils l'ont perdu et ça, c'était quand même...
Sur ces deux ans, ils ont tout récupéré. Ouais. Ils n'ont laissé rien à perdre.
Ils sont pas ouf. Hein.
Ouais, le petit pont massacre aussi. 2022, ils l'ont pas eu.
Je trouve pas qu'il y a plus de pression pour moi.
Je trouve que ta question initiale, elle était nulle, Nico, parce que pression, non, moi je suis d'accord avec Olivier.
C'est pas moi qui l'ai posé, c'est TFM, mais tu t'expliqueras avec eux, je te filerai le numéro.
On les embrasse, tu vois, ils vont me faire des problèmes. Non, mais là, pour être plus sérieux, pression, je suis d'accord avec Olid. Non, pas de pression. Ils vont être au rendez-vous parce qu'ils se doivent d'être au rendez-vous. Mais pression, non, ils l'ont fait le plus dur. Ils l'ont gagné la dernière fois et ça suffit.
Et il faudrait regarder aussi les équipes, hormis l'Égypte 2006, 2008, 2010, qui ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations.
Justement.
Derrière, ça se passe très mal.
Justement, la Zambie se fait éliminer au premier tour. Le Nigeria n'est pas qualifié. La Côte d'Ivoire se fait éliminer au premier tour. Le Cameroun se fait sortir en 8e de finale en Égypte. Et l'Algérie s'est sortie au premier tour lors de la dernière édition. Donc, conserver son titre en Afrique, c'est extrêmement compliqué. Déjà, faire un beau parcours après le titre, c'est aussi compliqué parce que c'est attendu.
C'est d'autant plus back-to-back, c'est extraordinaire.
C'est d'autant plus compliqué que la sélection sénégalaise a été agitée à l'approche de cette CAN parce qu'une info signalait des salaires à impayés. D'ailleurs, on salue Mansour Loum qui avait balancé cette info. Et la question a été posée par TFM sur ses arriérés à Aliou Cissé.
Non, je ne réponds pas à ça. En fait, bon, bon, donc, je suis concentré et que toute cette situation-là, on en parle avec les gens concernés en interne.
D'accord.
Et qu'aujourd'hui, cette situation n'enlève rien du tout. C'est ma motivation pour que justement nous concentrer sur les prochains. Mais c'est vrai que voilà.
Ouais, c'est vrai que voilà, il dément pas, hein, Lucie. Est-ce que c'est ça peut peser? Alors, franchement, moi, j'aime pas tomber dans les clichés. Ça arrive aussi dans d'autres sélections, d'autres continents, ce genre de trucs. Mais c'est quand même un truc qui est assez récurrent dans pas mal
de sélections
africaines. Les histoires de primes avant la compète. Là, c'est même pas une histoire de primes, c'est une histoire de salaire impayé. Est-ce que ça peut peser selon vous? Pas du tout.
Non, mais ça fait partie aujourd'hui de l'ambiance qu'il y a autour du Sénégal. C'est-à-dire que quand je parle de l'ambiance, il y a eu des blessures importantes. Là, on a eu encore Boulaïdia, qui est pour moi le meilleur numéro 9 actuel dans cette sélection, pour accompagner Sadio Mané, qui a annoncé son forfait.
Mais qui a quand même été convoqué. Hein.
Oui, mais c'est terminé. Là. Il a annoncé son forfait. Les blessés avaient été convoqués, même dans Palis Mendy, qui est encore là. Au milieu de terrain, on avait une crainte sur Matassar. Finalement, il sera là. Il y a des joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite. Là, il y a l'histoire, des salaires impayés. Le fameux back-to-back qui est très, très dur à réaliser. Tout ça me fait dire que oui, le Sénégal, faut les respecter parce qu'ils seront là et sur les dernières années, ils ont toujours été là. Hein, même sur les débuts d'Aliou Cissé, je me rappelle d'un quart de finale en 2017 où ils avaient fait un super premier tour et ils s'étaient fait sortir par le Cameroun qui avait gagné derrière au tir au but. Donc, faut les respecter. Maintenant, pour aller gagner, tout ça là, ça me fait dire quand même que ça va être quand même très très compliqué. Très très compliqué d'aller au bout. Et pour moi, il y a d'autres équipes qui ont un peu plus même la dalle d'être challenger pour gagner cette compétition.
C'est vrai que ça en fait des galères quand même pour une seule nation.
Ouais, effectivement. D'autant plus que tu t'attends pas à cela de la fédération dominante parce qu'on a l'impression que ça travaille bien, ça travaille sainement, surtout du côté de la fédération du Sénégal. Et effectivement, c'est un peu tombé comme une petite bombe juste avant la compétition. Alors, si ça tombe juste avant la compétition, je ne suis pas sûr que ce soit totalement anodin aussi. C'est qu'il y avait une volonté de faire fuiter cette information. Maintenant, sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, Aliou Cissé, il est en mission Coupe d'Afrique des Nations. Il aime son pays, ancien international, finaliste de la Coupe d'Afrique en tant que joueur. Il a la possibilité de devenir le Sénégalais le plus important de l'histoire du football sénégalais. On parle aujourd'hui de Sadio Mané, Pascal Palme. Aliou Cissé, c'est une personnalité extrêmement importante dans l'histoire du football sénégalais. Il est sélectionneur depuis quasiment 10 ans.
Didier Deschamps sénégalais.
Il arrive en 2015 à Aliou Cissé. Donc je pense qu'aujourd'hui sur la Coupe d'Afrique des Nations, je suis pas sûr que ça ait une incidence. Par contre, sur un projet un peu plus moyen terme ou long terme, ça peut peser, mais on n'y est pas aujourd'hui.
De toute façon, quand tu nous mets l'extrait, Nico, et que tu écoutes un peu ce qu'il dit, et notamment sur la fin de sa réponse, il te fait comprendre qu'en gros, le problème existe. On va pas lui prêter des mauvaises intentions et dire que c'est peut-être lui qui a fait fuiter. Mais
non, au contraire, elle essaye de.
Exactement, il calme un peu le truc. Mais bon, il admet en tout cas que le problème existe. Et puis moi, je suis d'accord avec Hamza. Je suis pas sûr qu'il continue l'aventure si cette situation perdure, en tout cas.
Alors, autre équipe hein, figurant parmi les favoris, le vainqueur de l'édition 2019, l'Algérie, Jamel Belmadi, qui a réexpliqué à l'approche de la CAN les objectifs des Verts.
Bon, j'ai déjà expliqué les ambitions. Quand on démarre une compétition, ça changera jamais, ça. C'est toujours pour aller au plus loin, pour aller vaincre, pour aller obtenir le résultat optimum. Ça changera pas. Après, on est plusieurs à vouloir la même chose, donc ça va être une lutte acharnée.
Voilà, Belmadi qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les favoris en parlant d'une lutte acharnée pour le titre. On rappelle, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, mais l'Algérie, lors de la dernière édition qui était tenant du titre, ils sont sortis en phase de groupe.
Tu le rappelles très souvent quand même.
Je pense qu'il le fait exprès.
Non, mais il faut.
Non, mais c'est pas grave, t'as le droit.
Une poule avec la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et
la Côte d'Ivoire. Cela dit, cette année, alors on se disait la même chose, hein, tu me diras, la dernière édition, ils sont avec le Burkina Faso, l'Angola et la Mauritanie, ça doit passer pour l'Algérie là, non ?
Ça doit passer, mais il faut être premier. Face au Burkina Faso, ça va pas être simple. Hamza le rappelait tout à l'heure, le Burkina Faso a fait 3 demi-finales sur les 4 dernières éditions. Ils ont des joueurs qui se subliment pendant cette compétition-là et 2-3 individualités qui jouent dans des bons clubs européens. Donc il va falloir très très bien commencer cette compétition. De toute façon, l'Algérie, on l'a bien vu avec Belmadi, c'est soit ça passe, soit ça casse pour l'instant. 2019 extraordinaire et la dernière, ça a été un peu plus compliqué, voire désastreux. Moi, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans cette équipe, qu'il y a une reconstruction, qu'il y a des joueurs qui sont arrivés, des retours de blessures aussi qui peuvent être bénéfiques comme Benacer au milieu de terrain. Maintenant, il va falloir se construire une histoire dans cette compétition. Si tu termines premier, moi je trouve que tu as un tableau qui peut s'ouvrir jusqu'aux demi-finales et qui peut être intéressant. À voir. C'est la compétition du rebond de toute façon pour l'Algérie. Si ça se passe encore très très mal, ça peut devenir compliqué et ça peut être la fin d'une génération. Ça va sûrement être la fin d'une génération.
Et de Belmadi, qui est là depuis 2018 ou pas ?
Je sais pas parce que Walid Zaidi l'a prolongé.
Comment contractuellement ?
Il l'a prolongé là.
2026, mais c'est un nouveau président qui est arrivé, donc
oui, ça peut être rediscuté. Semaines, donc.
Ouais. Oui, mais il nous a quand même envoyé un signal plutôt positif sur la prolongation de Belmadi. Maintenant, la question devra se poser si ça se passe très très mal autour de Belmadi. Maintenant, qui mettre après Belmadi, c'est aussi ça la question.
Est-ce que tu peux garder un sélectionneur après 3 échecs retentissants ?
Oui.
Il y a la Coupe d'Afrique et puis il y a le barrage face au Cameroun, qui, je le rappelle, est l'un des pires Cameroun de l'histoire de son histoire.
Après, on n'en est pas là encore.
Oui, voilà.
Donc voilà, il y a quand même une compétition.
Est-ce que tu crois,
moi, j'ai envie d'y croire, moi.
À la canne du rebond pour l'Algérie, comme le dit.
Totalement. Mais je pense que le premier tour sera extrêmement important, plus qu'une histoire de confiance, parce que après ce traumatisme de mars de mars 2022 face au Cameroun, il y a eu des semaines, des mois d'incertitude. Il y avait vraiment une espèce de flou qui entourait la sélection, aussi bien les joueurs. Est-ce que Mahrez allait prendre sa retraite internationale, autour évidemment du sélectionneur Jamel Belmadi. Et puis 2023. C'est l'année justement où on a essayé de reconstruire cette confiance avec une arrivée massive de nouveaux joueurs. Ait Nouri, Larroussi, Adjam sur le côté gauche de la défense. Chaibi dans l'entrejeu, qui est un joueur qui s'est subjugué par la faculté qu'il a eu de s'adapter très rapidement aux spécificités du football africain. C'est Amine Gouiri par exemple, ça va demander du Riyad Mahrez, il a mis 5-6 ans avant de devenir performant.
Joueur court. Très fiable.
Chaibi, il a le volume de jeu.
C'était pas dégueulasse. Hein.
Oui, après Aouar, tu vois par exemple Aouar Belmadi lui laisse le temps face à la Tunisie, l'Égypte et le Sénégal qui sont les 3 gros matchs amicaux qui étaient des matchs amicaux certes mais des gros tests pour Jamel Belmadi. Aouar, il était remplaçant. Tu vois.
Et Chaibi donc, titulaire et ça a été l'un des meilleurs.
C'est ça. Donc sur cette année 2023, l'Algérie est sortie invaincue, donc tu commences à reconstruire cette confiance, tu vas gagner au Mozambique dans des qualifs Coupe du monde où c'est jamais évident. En plein milieu de journée, il va falloir confirmer sur ce premier tour. T'as un premier tour évidemment abordable. Maintenant, le Burkina Faso, encore une fois, attention danger. L'Algérie a montré quelques lacunes aussi sur ses matchs face à la Tunisie, face au Sénégal, face à l'Égypte, même face à la Somalie avec une équipe
défensivement
remaniée.
Dans l'axe surtout, c'est un peu fébrile.
Il va falloir terminer premier de cette poule pour s'ouvrir évidemment à un tableau plus facile entre guillemets. Après, le tableau, on sait jamais ce que ça peut être. Tu peux avoir un crash d'un autre côté.
Toi, tu vas faire premier, t'es un gros qui va finir troisième.
Tu peux avoir la Tunisie troisième, surtout.
Donc, il faut terminer premier, assurer la première place, effectivement, et après, on verra.
Tu la sens comment l'Algérie, toi, Oussem? Moi, alors, y a, franchement, il y a deux ans, on voyait le groupe, on se disait, ouais, ça va passer. Tranquille.
Moi, vous allez me prendre pour un fou. J'ai jamais trouvé aussi fort l'Algérie que quand ils sont au pied du mur. Je trouve toujours, ils ont cette ressource-là.
Dans l'ombre.
Exactement. Tu vois, ils avancent tranquillement.
Bah, comme en 2019.
Ils sont sur le renouvellement d'une génération. Alors, moi, on peut être fan ou pas de Belmadi, hein, mais je trouve que le renouvellement est assez réussi. Il y a peut-être le cas Benrahma où on aurait aimé que ça se passe un peu différemment.
Après, mais... Benrahma, ça fait 10 ans qu'il est en sélection, il n'a pas sorti un seul bon match en sélection.
Oui, mais
moi,
tu vois,
Benrahma, c'est non, un super joueur à West Ham, etc.
Je ne suis pas pour qu'on individualise les analyses sur un point de vue collectif, mais je pense qu'on peut faire différemment. Je ne te dis pas qu'il faut le faire différemment, je ne te dis pas qu'on aurait dû faire différemment, mais on peut le faire en tout cas. Et c'est vrai que alors cette Algérie, avec cette défense un peu moins forte, tu le disais Walid, cette défense centrale moins forte, moins solide que ce qui a été fait avant. Mais il y a des arguments, j'aime ça. Moi, tu vois, on parle de Shaibi. Quand je vois Shaibi jouer au milieu de terrain et que je l'imagine avec Bentaleb et Bennacer derrière lui, je me dis, tu
vois. Pour moi, Shaibi sera le Bennacer 2019. C'est-à-dire que le joueur qui était. Qui arrivait aussi. Il y avait deux, trois joueurs qui arrivaient dans cette équipe. Et
ouais, Ben Ali, Ben Lamri en défense centrale.
Et là, tu en as encore deux, trois. Tu vois, t'as Amoura, on parle pas d'Amoura, mais il fait une super saison avec l'Union Saint-Gilloise.
Qui sera suspendu pour le premier match.
Ouais, il sera suspendu pour le premier match, mais je pense qu'au fur et à mesure des rencontres, il va prendre du temps de jeu, que ce soit en sortie de banc ou même en démarrant. Et je pense qu'il va apporter à cette équipe.
D'autant plus que Gouiri n'est pas là. Exactement. Parce qu'avec Gouiri, il y avait trois joueurs sur ce côté gauche, donc on savait pas si Amoura, souvent en sortie de banc, effectivement, avec Belaïli et Amoura, on le verra, je pense.
Moi, je pensais carrément, Walid, que Riyad Mahrez allait être le problème technique de quand je dis technique, dans le sens...
Dans les choix.
Exactement. Je pensais que ça allait être le problème avec Gouiri, avec Amoura, avec Belaïli. Je me disais, mais en fait, le point plutôt éjectable, même s'il a fait l'histoire de ce pays...
Non, pas avec Belmadi.
C'est ça. Pour moi, il est éjectable, mais pas avec Belmadi. Ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Riyad Mahrez, je vais être très, très clair, quand tu vois la constitution du groupe algérien, si tu prends les 20 meilleurs joueurs ou 25 meilleurs joueurs, l'équipe, elle est faite... Par exemple,
pour
jouer à 3 derrière. Ça veut dire que tu rassures la défense centrale avec Ben Sebaïni Mandi, parce qu'ensemble, les deux, ça n'a jamais été performant. Oui. Coupe d'Afrique 2017, où on était dans le groupe de la Tunisie.
Oui. Mais tu mets qui? Tu mets Tougaï avec eux?
T'as Atal et Ait Nouri qui ont justement des profils pistons. Tu peux mettre Tougaï en défense centrale pour justement sécuriser. Les milieux, t'as 112 milieux de terrain pour 3 places. Oui. Devant, t'as Amoura qui a un profil différent, Gouiri qui est blessé, Bounja, Slimani. Parce que mine de rien, Mahrez, il est sur la fin, il joue en Arabie Saoudite. Belaïli, lui aussi, il est sur la fin, il joue en Algérie. Les joueurs de couloir, tu les auras peut-être pas. Mais tant que Mahrez est là, Mahrez, tu vas forcément le mettre sur le côté droit de l'attaque. Oui. Donc lui,
Aounas aussi qui peut sortir du banc et faire mal. Mais la question sur Mahrez, elle va se poser pendant toute la compétition, Nicolas, parce que tu parlais de Belmadi, mais pour Mahrez aussi, il nous a fait rêver. Ça a été exceptionnel sur la CAN 2019, mais depuis 2019, on est très très déçus. Moi, je trouve que l'impact qu'il a dans les rencontres, parfois, c'est très frustrant. Et je le dis parce que Mahrez a un talent immense et on ne peut pas se satisfaire de ses performances. Et sur cette compétition, lui aussi, c'est la compétition du rebond. Oui. Tout à l'heure, on en parlait. Il y avait des questions sur son avenir en sélection après ses derniers échecs. Là aussi, on va attendre Mahrez très fort sur cette compétition, parce que sinon, la question va se poser au fur et à mesure.
On a déjà évoqué quelques favoris pour cette CAN en Côte d'Ivoire. Alors, le favori des bookmakers à quelques jours du début de la compète, c'est le Maroc, côté à 6, devant le Sénégal à 7. On a l'Algérie et la Côte d'Ivoire à 8. La Tunisie à la 11, Oussem.
Franchement, j'aime beaucoup cette analyse de bookmaker.
Ah bon ?
Je trouve qu'elle est assez. Franchement, je trouve qu'elle est assez juste. Vous me direz vous ce que vous en pensez,
les gars. Je trouve un peu haute.
Oui.
Alors, l'Égypte, ils sont à 10.
Tu vois, moi, franchement.
Comme le Cameroun.
Que tu me dises, si tu dois te dégager un top 3.
Moi, je me sens bien l'Égypte cette année.
Oui, si tu dois me dégager un top 3 et que tu me mets dedans Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, Algérie, aller en top 4, franchement.
Pour moi, mes trois favoris, et je l'ai déjà dit, mais dans l'émission, dans l'after. C'est
Maroc, Côte d'Ivoire,
Côte d'Ivoire, Maroc, Égypte. Pour moi, c'est
l'Égypte en 3.
C'est quoi?
Moi, j'ai Côte d'Ivoire parce que effectif exceptionnel, parce que domicile, et on va me dire la pression à domicile. Je préfère toujours jouer une compétition à domicile. On se souvient de l'équipe de France en demi-finale à l'Euro 2016 qui bat l'Allemagne.
Même si attention sur les dernières CAN, ça a pas.
Oui, non, mais bien sûr.
Après,
c'est vrai, mais sur les dernières CAN, moi, je veux bien. Le Gabon, ce n'est pas taillé pour gagner.
Côte d'Ivoire, qui d'autre?
L'Égypte, évidemment. L'Égypte qui a l'ossature 2021, oui. Avec un football encore plus léché grâce à Rui Victoria.
Pour ceux qui sont dans l'ombre, on n'en parle pas de l'Égypte.
Oui, c'est
donc, non, moi, l'Égypte, évidemment, je les place très très haut.
Et des joueurs offensifs qui ont haussé de niveau. Hein. Marmouche,
bien sûr. Après, il faut aussi performer en Afrique.
Oui, bien sûr.
On connaît l'histoire.
Oui.
Et en troisième, il y a Sénégal-Maroc, que je mets ensemble.
Et toi?
Ah ouais, moi, je mets Côte d'Ivoire-Maroc au-dessus. Et juste en dessous, Sénégal-Algérie.
Et le Maroc, on va en parler, un demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, avec en conséquence un nouveau statut assumé, et c'est son sélectionneur, Walid Regragui.
Alors, le fait d'être des outsiders à favoris, c'est le côté mental qui va primer. On a un nouveau statut FLAFRIC, on a un nouveau statut même mondial. On est dans le top 15 mondial depuis un an.
Voilà, il semble assumer son statut de favori, hein, Walid Regragui. Est-ce que le Maroc a changé de dimension grâce ou à cause d'ailleurs de cette Coupe du
Monde ? Bien sûr. Et quand tu fais le plus gros résultat de l'histoire africain.
Mais c'est pas un gage, c'est pas une garantie
de performance en Coupe du Monde pour une carrière. Ça, c'est la deuxième étape.
Mais cette Coupe du Monde et cette performance en Coupe du Monde obligent le Maroc à. Je sais pas si le Maroc aujourd'hui.
On parlait de pression, c'est eux qui l'ont.
Exactement. C'est pour moi le pays qui aujourd'hui a le plus de pression, bien plus que le Sénégal. Et je vais reprendre ce que tu disais par exemple avec Walid Regragui. On se souvient de ses déclarations, je sais plus si c'était pendant la Coupe du Monde ou juste après la Coupe du Monde, où il disait on peut pas être roi du monde sans être roi en Afrique. Et il disait si je fais pas demi-finale, je démissionne. Qu'est-ce qu'il a dit ?
Après, il a rétropédalé.
Et justement, il y a quelques semaines, il est revenu sur ses propos en disant « J'ai été moi aussi pris dans ce tourbillon médiatique autour de cette Coupe du Monde. » Depuis, il y a eu des matchs face à l'Afrique du Sud, des matchs face à la Côte d'Ivoire. Effectivement, comme tu le dis, Walid, il a dit « Je suis redescendu. » Il s'est même excusé auprès du peuple marocain. Je pense qu'il y a une pression monstrueuse sur le Maroc. Alors, on va en parler, dans 2 ans, il y a une Coupe d'Afrique. C'est vrai.
Important.
Mais aujourd'hui, le statut de. Précision, au Maroc. Mais
Le statut de.
Walid, tu sens qu'il les imagine vainqueurs là-bas.
Le statut de demi-finale oblige le Maroc à performer.
Moi, pour moi, encore une fois, le projet marocain et la pression qu'ils ont, c'est sur les deux prochaines CAN. C'est-à-dire que, il y a une pression immense sur. Celle en Côte d'Ivoire. Après, il ne faut pas oublier qu'il n'y a aucune équipe maghrébine qui s'est imposée sur le sol subsaharien.
C'est le Maroc.
L'Éthiopie, mais l'Éthiopie, c'est considéré comme l'Afrique de l'Ouest, si je me
trompe. Si tu dis Afrique subsaharienne.
Voilà, c'était plus.
L'Éthiopie, c'est l'Afrique de l'Est.
Et c'était en 76, mais sinon, c'est très très compliqué de s'y imposer là-bas. Il y a un projet avec Belmadi, avec Walid Regragui, c'est sur les deux prochaines CAN. Parce que pour moi, le gros objectif, ça reste 2025, à la maison, où là, ils ne peuvent pas se louper. C'est impossible. À la maison, ils doivent la gagner. Maintenant, sur cette Coupe d'Afrique des Nations, ils ne peuvent pas se vautrer. C'est-à-dire que il va falloir voir comment cette équipe-là progresse. Parce que là, ce que tu nous expliquais, Nico, c'est que le changement de statut, sur la Coupe du Monde. Mais là, c'est un autre contexte. Exactement. Contexte africain et puis surtout un contexte...
C'est pour ça que je te dis que ce n'est pas une garantie.
Et surtout, une philosophie de jeu très différente.
Autre chose.
Le Maroc, contre la Belgique, contre la Croatie, contre le Portugal, contre l'Espagne, était dans un rôle d'équipe qui attendait. Là, aujourd'hui, ça va être l'inverse. Tout le monde va attendre le Maroc. Et il va falloir avoir quelques adaptations. Il va falloir que des joueurs prennent beaucoup plus d'ampleur. Je pense à El Khanous, je pense à Ounahi, je pense à des joueurs comme Amin Harit qui n'étaient pas là, notamment à la Coupe du Monde, pour essayer de créer face à des blocs bas. Saïbari du PSV, face à des équipes qui vont attendre. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Et surtout, ils ont un tableau, s'ils terminent premier de leur poule, qui ne va pas être simple du tout. Moi, j'ai regardé un petit peu, c'est Tunisie ou Mali en 8e, ou Afrique du Sud, c'est l'Égypte en quart. Et quand on connaît le passif de l'Égypte, et pour moi, si tu veux mon petit prono, le vainqueur de Maroc-Égypte gagnera la CAN. Et quand on sait que l'Égypte psychologiquement a une vraie
habitude,
face aux Marocains, face aux Algériens aussi.
C'est le record.
Et dans ces compétitions, mais je crois au Maroc parce que le Maroc a un effectif. Mais quand on parle d'homogénéité de la Côte d'Ivoire, que ce soit gardien, défense, milieu, attaque, c'est extraordinaire. En le mélange jeunesse, insouciance et expérience, c'est ce qui se fait de mieux pour moi. Maintenant, il va falloir le montrer sur cette Coupe d'Afrique des Nations.
Justement, performant en Coupe du Monde, c'est pas une garantie de cartonner à la CAN par la suite. Il y a quand même un truc, c'est que.
Bon, là, historiquement, avec l'Algérie 2014-2015.
Historiquement, le Maroc, c'est pas une équipe qui performe de ouf à la CAN. Ils ont gagné une CAN en 76, on en parlait. Ils ont eu une troisième place il y a 20 ans. Et il y a eu une finale dans les années 80.
Voilà. Je repense à ce que disait José Mourinho à l'époque. Il y a une vidéo qui tourne assez souvent sur les réseaux sociaux. Il était l'entraîneur de Manchester United. Il disait « football heritage ». Et ressortait les résultats récents. Le Maroc, depuis 20 ans, n'a pas fait une seule demi-finale de Coupe d'Afrique. Le Maroc, sur ses 35 dernières années, n'a fait qu'une seule demi-finale de Coupe d'Afrique. Donc aujourd'hui, en termes d'effectifs, c'est une équipe exceptionnelle.
Ils n'ont jamais eu ce travail-là.
Bien sûr.
Fait en amont. Les U23, c'est extraordinaire. C'est... Le travail de Fuzileshka, c'est extraordinaire. Ils n'ont jamais eu ce coach-là. En tout cas, dans leur histoire. Mais aujourd'hui, il y a une stabilité.
C'est ça,
Il y a un vivier de partout. Ça sort de partout.
Mais quand je parle de football heritage, pourquoi est-ce que le Cameroun, le Ghana, le Nigeria, qui concrètement, je le redis, peuvent sauter au premier tour sans que ce soit une surprise, je ne peux pas les exclure du titre final? Parce que justement, ils ont cet ADN Coupe d'Afrique.
Oui, mais au-delà de l'ADN, Walid, et Hamza, et c'est là où moi je rejoins Walid, c'est que. ils ont ce travail effectué. Et moi, j'échange très souvent avec, avec Walid Regragui.
D'ailleurs, c'est grâce à toi qu'ils sont en demi-finale de Coupe du Monde.
Pas du tout, parce j'ai pris que deux cafés seulement avec lui au Qatar, c'est tout.
Non, mais c'est le café, la
différence. J'échange très souvent parce qu'il y a un truc qui m'excite, moi, c'est comment il va faire jouer son équipe. Et t'as raison, Walid. Le Walid Regragui, il ne pense qu'à ça. Il ne pense à comment maintenant on va lui laisser le ballon. Il sait qu'en face de lui, il aura des équipes qui vont le laisser jouer et comment il va jouer. On a parlé de plein de choses, plusieurs éventualités. Peut-être pas mettre, pourquoi pas mettre Ziyech dans le cœur du jeu. Il m'a parlé de plein de trucs. Il sait, il a conscience de tout ça. Et là où moi, je trouve que le Maroc, pourquoi moi je les vois comme un favori, au-delà du parcours en Coupe du Monde, c'est que c'est un pays qui bosse énormément sa manière de penser le football. Que ce soit dans les sélections de jeunes, que ce soit dans l'organisation, dans le structurel, les stades, les centres d'entraînement, ils se préparent. Et t'as raison.
Est-ce que c'est comme ça que tu gagnes les compétitions ?
Je pense que oui.
Parfois, t'as des nations qui pensent pas forcément leur truc, ils y vont par pur pragmatisme.
Non, mais il y a le travail mental qui a été fait. Et c'est là où tu peux un peu déjouer cette histoire d'héritage. C'est qu'ils bossent sur les cerveaux des joueurs. Dès le plus jeune âge, maintenant, il le fait. Et lui, Walid Regragui, il le fait encore plus avec son effectif qu'il a en ce moment.
Mais le défi, c'est un travail d'une décennie, d'une dizaine d'années. Le défi on parlera de 2025 peut-être un autre jour, mais tout ce que tu dis, pour moi, c'est valable notamment et d'autant plus pour la Coupe d'Afrique 2025. Oui. Là, aujourd'hui, après, par rapport à ce que tu disais, laisser le ballon, effectivement, cette histoire de style de jeu, la différence par rapport à la Coupe du Monde, là où ce qui est intéressant, c'est qu'Walid Regragui, depuis la Coupe du Monde, il a eu deux tests, deux vrais tests. En Afrique du Sud, sans Amrabat et Bounou, parce qu'ils étaient, ils disputaient des finales de Coupe d'Europe, en Afrique du Sud, ils perdent 2-1, c'est un premier signal d'alarme. Donc depuis juin dernier, il sait comment travailler sur... Deuxième test, je crois que c'était au mois d'octobre, à Abidjan, ils ont affronté la Côte d'Ivoire.
Sans
match nul, un partout, sans quelques joueurs. Et là aussi, je pense qu'il peut aussi construire sur ces deux matchs pour essayer justement sur cette Coupe d'Afrique d'avoir un style qui réussirait à vaincre ses adversaires.
Et le défi est grand. Le défi est grand. Ouais. Malgré qu'ils soient favoris, c'est ça en fait. C'est ça qui est paradoxal. Le défi, sincèrement, s'ils arrivent à gagner cette CAN en Côte d'Ivoire, ce serait extraordinaire. Bien
sûr. Alors, on évoquait cette fameuse demi-finale du Maroc au Mondial 2022. Supporter des Lions, petit kiff, des Lions de l'Atlas. On vous propose de revivre le but d'En-Nesyri lors du quart de finale face au Portugal. C'était sur RMC, commenté par Timothée Mémon, qu'on embrasse, bien sûr.
C'est terminé ! C'est terminé !
Non ! Oh là, volé, mec !
Le Maroc est en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. C'est historique pour le Maroc. C'est historique pour l'Afrique. Le Maroc est en demi-finale d'une Coupe du Monde grâce à En-Nesyri à la 42e, grâce à Regragui et son football pragmatique, grâce à la dévotion, grâce au travail, grâce à la solidarité d'un 11 héroïque. Le Maroc est en demi-finale. Incroyable coup de canon dans cette Coupe du Monde. Le petit poussé est là et il fait peur au gros.
T'as accepté qu'on diffuse ça, toi ?
J'ai choisi qu'on diffuse ça. Il est affondant, Timothée. Je suis pas le seul, moi. Alors, Walid, t'avais envie de lancer un débat, de poser un débat. Tu te demandes si cette CAN, qui est dans la continuité de ce résultat historique pour l'Afrique du Maroc lors du dernier mondial, le foot africain n'est pas un virage dans son histoire. Vas-y, explique-moi.
Oui, non, pour nous, pour moi, cette Coupe d'Afrique des Nations, on en a parlé en introduction, qui est où on a une homogénéité, des stars un peu partout, des équipes qui progressent, un nivellement vers le haut. Je pense qu'on est un tournant du football africain, on est un virage du football africain pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour moi, le Maroc a ouvert la porte sur la dernière compétition avec cette demi-finale de Coupe du Monde, qu'il va falloir s'engouffrer là-dedans. Que même si nous, on critique souvent le nouveau format de la Coupe du Monde, pour le coup, le football africain va avoir un 9+1. Avec 9 équipes qui vont, 9 sélections qui vont pouvoir aller à la prochaine Coupe du Monde et un possible barragiste. Ça, il va falloir prendre cette opportunité pour continuer à progresser et pour continuer à faire émerger des équipes qui peuvent se hisser dans le dernier carré et voir plus. Et derrière, en 2030, le Maroc aura une demi-finale sur le sol.
On rappelle qu'organisation avec l'Espagne et le Portugal.
Exactement,
du
sur le sol, marocain et donc sur le sol africain. Et pour moi, sur la visibilité, les joueurs qui, même si on en a parlé à une ou deux exceptions près, respectent énormément le continent africain et même leur binationalité en choisissant pas mal de pays africains, la visibilité, les chaînes, le niveau de jeu qui peut être encore meilleur, les pelouses. Il faut prendre ce virage-là pour que le football africain gagne et pour qu'il en sort grandi. Et moi, j'y crois. J'y crois beaucoup. Je trouve qu'il y a quand même si bien évidemment qu'on peut parler de pas mal de sélections encore qui travaillent mal, mais je trouve que ça va dans le bon sens. On vient de parler du Maroc là précédemment. Il y a de la stabilité sur certains pays qui fonctionnent bien. Et je pense que ce virage-là, il faut le prendre sur cette compétition 2023.
Alors, 2023-2024. Je vais me faire l'avocat du diable, hein, mais le Maroc est entré dans l'histoire du football et du football africain lors de la dernière Coupe du Monde. Mais les autres nations africaines, le Sénégal fait 8e de finale. Mais après, tu as Tunisie, Cameroun, Ghana éliminés en phase de groupe. Oui, c'est vraiment une évolution.
Pour moi, c'est un nouveau. Avec la Tunisie, c'est la seule équipe sur la Coupe du Monde à avoir battu la France dans le jeu.
Non, mais Nico,
mais TF1,
Nico,
le savait pas.
Nico, moi, je te...
Ils ont rendu avant.
Nico, je te parle pas de ce qui s'est passé après cette CAN. Je te parle de cette CAN-là qui peut être un virage rapport à la visibilité et aux chances de participation en Coupe du Monde et de la progression.
Mais c'est vrai que tu dis un truc totalement vrai, Walid, c'est qu'on a l'impression, en tout cas, même pour... moi, je cite souvent la Tunisie parce que c'est vraiment un contexte que je maîtrise bien plus que les autres nations, mais on a l'impression qu'en Afrique, on réalise. Ce qu'il n'y avait pas avant. En fait, c'était avant...
Tu veux dire quoi, qu'on se dit que c'est possible?
Exactement. Et ça, c'était une phrase que disait souvent Walid Regragui pendant la Coupe du Monde. On arrête le folklore. Tu vois, on arrête le... Oui, ils ont des bons joueurs, ils peuvent. Aujourd'hui, toutes les nations... Moi, je sais que j'en parle souvent avec Hamza, l'Afrique du Sud qui est considérée comme un outsider. Quand tu vois comment les Mamelodi Sundowns, qui est une des plus grosses équipes sur le continent...
Qui a remporté la Ligue des Champions
d'Afrique. Quand tu vois comment ils bossent...
L'African Football League.
L'African Football League.
Oui, pardon. Ça s'appelle comme ça.
La Ligue des Champions, c'est l'Ahli.
Voilà. C'est ça.
Sorry.
Et tu vois comment eux, ils bossent. Qu'ils ont aujourd'hui au sein de leur sélection nationale au moins 8 ou 9 joueurs, tu me dis si je me trompe Hamza, qui jouent dans cette équipe et qui réalisent qu'en fait ils peuvent être importants sur la scène internationale. Moi je suis d'accord avec Walid, il y a un truc qui se passe en tout cas dans les esprits des fédérations.
Moi j'aime bien le symbole de l'Afrique du Sud et des Mamelodi Sundowns, parce qu'il n'y a aucun joueur du Big Five qui a été convoqué par l'Afrique du Sud. Il y en avait un qui devait y être et finalement il n'y est pas pour des raisons de santé mentale, on va dire.
Là, il Foster, voilà. Ouais, avec Burnley, des problèmes mentaux, et Lebo Motiba de Strasbourg qui malheureusement s'est gravement blessé. Voilà. Et effectivement ce sont deux seuls joueurs, pour le reste
c'est... Mais c'est vrai que c'est un symbole que, on parlait du Shan tout à l'heure, voilà, il n'y a pas que lors du Shan que les joueurs locaux peuvent
briller. L'expertise du continent.
Mamelodi Sundowns c'est une équipe honnêtement...
Et qui joue bien.
Il faudra en parler, on peut en parler pendant deux heures.
T'avais proposé d'ailleurs qu'on se fasse un Galaxy.
Ouais, franchement c'est une équipe incroyable avec un entraîneur, Roulani Mokwena, il a 37 ans je crois. Il a une histoire déjà familiale exceptionnelle.
Que Attal, hein,
c'est bien. Ouais, et c'est sa première expérience en tant qu'entraîneur principal. Il a un style de jeu extraordinaire. Ouais. Ils ont aussi les moyens financiers qui permettent justement à Sundowns de récupérer beaucoup de joueurs d'Amérique du Sud, des Argentins, des Chiliens, des Uruguayens. Et autour de ça, on va placer les meilleurs joueurs sud-africains qui viennent d'autres clubs ou qui sont formés à la maison. Et aujourd'hui, quand tu prends la sélection sud-africaine, je crois qu'il y en a 7 qui évoluent à Sundowns, et sur les 7 il y en a 5 ou 6 qui seront titulaires à cette Coupe d'Afrique des Nations. Moi l'Afrique du Sud pardon, je fais clairement partie de ceux qui pensent que ça peut être l'équipe surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'en plus il y a un sélectionneur, Hugo Broz, qui a remporté la Coupe d'Afrique avec le Cameroun en 2017, avec une équipe qui on s'en souvient à l'époque, hein, en 2017 le Cameroun c'était une équipe qui avait, je crois, 13 absents, 13 joueurs qui avaient refusé de disputer cette compétition. Donc il y a tout pour que l'Afrique du Sud soit l'équipe surprise. Mais ce que je veux dire,
qui est dans le groupe de la Tunisie, ça va plaire.
Mali, on parle beaucoup du groupe C du Sénégal, mais Tunisie, Mali, Afrique du Sud et Namibie qui a terminé en tête de sa poule de qualif devant le Cameroun.
Oui.
Attention, parce qu'on peut se dire l'équipe qui va perdre des points face à la Namibie sera la grande perdante.
Premier match Tunisie.
La Namibie, elle peut aussi terminer troisième et sauter un des gros. Hein. Attention.
Premier match Tunisie.
Toi, l'Afrique du Sud, tu les vois fort?
L'Afrique du Sud, je les vois gros.
C'est qui veut une surprise, parce que souvent il y en a une, c'est vrai aussi, mais ça qui t'a surpris?
Est-ce que c'est vraiment une surprise? Je sais pas, le Mali.
C'est pas vraiment une surprise.
Moi j'ai un problème, excusez-moi les gars. Je
après on les annonce toujours surprise.
Le Mali, effectivement, il y a deux ans on a fait cette même émission, Nico et Walid étaient là. J'avais fait le Mali, mon équipe surprise. Ça fait 15 ans que le Mali.
On les enlève alors. On les enlève parce que.
Moi le Mali. Non mais le
gros, c'est qu'ils ne performent pas.
Ils ne performent pas. Aujourd'hui ils ont une équipe, encore une fois, tu prends les individualités. Je pense qu'il n'y a pas une équipe.
Le milieu de terrain,
il
n'y
a pas une équipe en Afrique qui a un meilleur milieu de terrain en termes de qualité individuelle que le Mali.
Il y en a beaucoup qui
c'est extraordinaire cette équipe.
Il y a un match avec la Côte d'Ivoire quand même.
Oui.
En termes de quantité, de qualité. Je pense que le Mali est comme un peu
au-dessus. C'est la théorie de Julien Med, d'ailleurs, qu'on embrasse aussi.
Il dit
que le milieu terrain du Mali
est extraordinaire. Aujourd'hui, il y a Eric Schell qui est arrivé, sélectionneur, qui a remplacé Magasuba, qui fait un gros travail, qui a permis aussi l'arrivée. Alors, malheureusement, il y a El Bilal Touré qui est blessé, il y a Ibrahima Koné qui est blessé. Donc, deux attaquants potentiellement titulaires qui sont pas là. Il y a une polémique, d'ailleurs, autour d'El Bilal Touré, du traitement de l'Atalanta. Le Mali, évidemment, ils font partie de mes deux équipes.
C'est quoi ta surprise alors?
L'Afrique du Sud.
Ok, toi?
La Guinée, alors. Sans le Mali, la Guinée.
La Guinée, quoi? Guinée-Conakry.
Ouais, Guinée-Conakry.
Ah bon, tu penses dans la
surprise,
poule,
hein.
Dans la poule de la mort, là, avec le Sénégal, la Gambie et le Cameroun.
Ils peuvent terminer deuxième, ils peuvent
faire un truc. Tu penses?
Tu mettrais qui, toi? Le Burkina Faso, la Mauritanie ou l'Angola, du coup? Sur le groupe de l'Algérie.
Non, mais le Burkina sera placé. Moi, je pense que la Tunisie, par exemple.
C'est vrai qu'on en parle peu. Est-ce que c'est une surprise, la Tunisie?
Non, mais coupera quand même une tête. Moi, je pense que c'est encore une fois
dans un grand chelem,
tu vois, c'est le non-tête de série ou le qui tape le deuxième ou le troisième en huitième et qui derrière part en quart, tu vois.
Est-ce que le Nigeria ce serait une surprise? Est-ce que le Ghana serait une surprise?
Moi, je crois pas.
Mais pour moi, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, la Tunisie, c'est pareil.
Ils ont pas d'oseille, ils ont pas de défense, c'est trop compliqué.
Non mais ça. Je te le redis, Tunisie, pardon, Nigeria, ça peut sauter au premier tour.
C'est Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau.
Mais encore une fois, la Tunisie, il y a un manque de talent individuel par rapport aux voisins, à l'Algérie, au Maroc notamment, et à l'Égypte de l'autre côté.
Y a un vivier qui est
différent, et pourtant, il y a cette ADN Coupe d'Afrique.
Elle est dure à manœuvrer.
Tu peux pas exclure cette équipe. Ouais. C'est une équipe qui prend pas beaucoup de buts quand elle joue des adversaires. Honnêtement, tu peux t'ennuyer, oui, devant ces matchs. Mais sincèrement, moi, je peux pas exclure la Tunisie.
Ils peuvent terminer en tête,
ils peuvent terminer troisième, passer comme le Portugal en 2016, passer sur les quatre meilleurs troisièmes, faire un parcours.
Les surprises. Si je te dis Burkina Faso en quart de finale, c'est pas une surprise, ils l'ont fait.
Non, mais surprise, c'est pas quart de finale. Pour moi, surprise, c'est dernier carré.
D'accord.
Dernier carré.
Donc pour toi, l'Afrique du Sud va dans le dernier carré.
Ça peut aller au dernier carré, bien
sûr. Ah ouais.
Ah oui,
d'accord.
Ah ouais, d'accord.
Et toi, tu dirais quoi du coup?
Ah, j'ai pas ça moi.
C'est quoi ta surprise?
J'ai pas de surprise sur le dernier carré. Moi, je pense que les gros seront là, moi.
Parce qu'on dit.
Je sais pas. J'ai le droit ou j'ai pas le droit?
Ta surprise, c'est qu'il y aura pas de surprise.
Non, pour moi,
c'est possible.
Quand je dis les gros, on a dit tout à l'heure, il y a 12 gros qui peuvent la.
Pas le physique.
Non, mais il y a 12 gros qui peuvent la gagner. Il y a 12 gros qui peuvent la gagner. On peut avoir quand même 4 gros en demi-finale, non?
On a bien
En tout cas, nous, on dit tout à tes auditeurs sur le podcast After Galaxy. Il y a Jimmy Brown qui produit cette émission. Il est comme un fou sur l'Afrique du Sud. Il dit Hamza, il m'a converti.
C'est vrai?
Attends, vraiment.
J'ai pas regardé.
Sincèrement, juste.
Bah, il écoute Bafana Remix de la Fouine,
Je pensais qu'on était sérieux ici.
Non, mais évidemment. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je te jure, il m'a excité avec les Mamelody Sundowns.
Justement, si vous avez, sincèrement, si vous tombez un jour sur le Mamelody Sundowns,
40 contre 1 la cote, ça y est,
regardez Sundowns. C'est une. Sincèrement, c'est l'une des rares équipes en Ligue des Champions. Là, j'ai eu le loisir de commenter les 6 matchs de Sundowns sur l'African Football League. Vous prenez un pied monumental. C'est une équipe exceptionnelle.
Tu piches toi, même sur le.
Il bosse, hein.
Il bosse.
Tu commentes. Si tu veux, j'ai 2-3 idées. Je vous dis.
Non mais sincèrement, l'Afrique du Sud, moi, je vous le dis sincèrement. Attention. Après, ça peut aussi se cracher au premier tour parce que c'est groupe compliqué.
T'auras Jimmy sur le dos.
Je vous le dis. L'Afrique du Sud, si jamais il y a une surprise, ça peut être l'Afrique du Sud.
De toute façon, t'es là pendant
tout le mois.
On est dans le couloir.
Oui, parce que pareil aussi, discussion
sur la compétition. Alors,
il est pas prévu.
Attends, parce que discussion, Nico, que j'ai aussi.
J'avoue qu'à 40, c'est-à-dire qu'ils sont derrière la RDC, le Burkina, le Mali, le Ghana, la Tunisie, le Nigeria, le Cameroun, l'Égypte, l'Algérie. Bon, après, c'est
pareil, RDC, gros profil de. On a beaucoup d'espoir, il va se passer.
Il y a beaucoup d'espoir sur la RDC.
Non, mais individuellement, c'est pas si moche, tu vois.
Ouais.
Il peut, mais finalement.
Un bon maillot, puis on a embrassé Rita Ilunga.
Et puis Bakambu aussi, on l'embrasse.
Merci beaucoup, Hamza Rahmani.
Au plaisir.
Voilà, tu
vive la Coupe d'Afrique.
On n'a pas parlé du Cameroun, purée.
Ah oui,
Cameroun, ce qui se passe actuellement là, c'est.
Ouais. Ah, c'est fou.
Et on en parlera pas, on n'a plus le temps.
Ouais.
Merci Walid Acharchou, on sera là. Et de toute façon, je vous rappelle, notamment grâce à toi, mon cher Oussama.
Exactement, Génération Africa 2024, 20h, 21h, soir de match, sur YouTube et sur la radio digitale spéciale Cannes, parce que oui, RMC investit, il y aura une radio. Que pour la CAN, tous les matchs seront.
C'est monstrueux ça, c'est monstrueux.
Du coup, le Cameroun, on aura l'occasion d'en reparler.
Exactement.
Pour en reparler notamment avec Oussem. On remercie Jimmy Brown à la production.
Toujours.
On remercie Sylvain Kemener à la réalisation. Bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la CAN est à vivre sur RMC.
Ciao.
After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.